Voici le journal de Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Eric, bonjour à tous et bonne fête à tous les papas. Dans l'actualité de ce dimanche, les conséquences des orages qui se sont abattus hier après-midi sur les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bilan, une touriste tuée par la chute d'un arbre en Haute-Savoie, des vignes et des propriétés arboricoles détruites dans la Drôme. À suivre, la forte mobilisation attendue aujourd'hui encore à Hong Kong, où des centaines de milliers de personnes sont attendues dans les rues de l'ancienne colonie britannique. Des manifestants qui ont l'intention de faire entendre leur opposition à la politique menée par le gouvernement local et dénoncer les violences qu'ils doivent subir. Quatre candidats à l'investiture du parti La République En Marche pour les municipales parisiennes publient une tribune dans laquelle ils souhaitent faire barrage au choix de Benjamin Griveaux. Des municipales, il en sera également question à 8h20 en compagnie de votre invité, Eric Delvaux.
Oui, Sébastien Chenu, député Rassemblement National du Nord. Quelle stratégie du parti de Marine Le Pen pour les municipales? Avec quelles alliances? Rendez-vous donc effectivement à partir de 8h20.
Le 20e bouclier de Brennus pour les Toulousains qui se sont imposés 24-18 hier soir devant Clermont en finale du top 14. Un titre de champion de France de l'Ovalie attendu depuis 7 ans. Du rugby, il en sera donc question dans le journal des sports présenté à 8h10 par Cécilia Arbonna. Sachez enfin que c'est Toyota qui mène actuellement la danse des 24 heures du Mans avec deux voitures en tête.
France Inter.
Retour en ce début de journal sur ces violents orages qui ont causé de gros dégâts hier après-midi en Haute-Savoie et dans la Drôme, deux des 9 départements placés en vigilance orange par Météo France. Orages qui sont à l'origine de la mort d'une touriste allemande de 51 ans écrasée par un arbre tombé sur son camping-car dans un camping de Taninges. Dans la Drôme, le maire de Romans s'apprête à demander la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Il faut dire que ce département a été particulièrement touché par ces orages, accompagnés de chutes de grêlons, parfois de la taille de balles de tennis, qui ont non seulement causé de nombreux dégâts matériels, mais également dévasté vignes et propriétés arboricoles. Les précisions du préfet de la Drôme, Hugues Moutou, joint au téléphone par Noé Da Silva.
Ça a duré à peu près une quinzaine de minutes, donc c'était bref, mais extrêmement violent. Alors le bilan est important, surtout du point de vue matériel, au niveau des récoltes des producteurs, arboriculteurs, viticulteurs, maraîchers, les interventions concernées des problèmes d'inondation et surtout des bâchages, puisque toutes les baies vitrées, les vitrines, les vitraux de la collégiale, magnifique monument historique, ont été explosés par la violence de l'impact. On a une dizaine de blessés légers, Dieu merci. Sinon, beaucoup de bâtiments ont été touchés, des baies vitrées qui ont explosé sous l'impact. Mais au-delà des centres urbains, on a surtout à déplorer un résultat catastrophique pour les récoltes, puisque les arboriculteurs, viticulteurs ont été frappés de plein fouet.
Le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, est attendu sur place en fin de matinée. Il n'y a plus aucun département à l'heure actuelle en état d'alerte.
On attend encore beaucoup de monde aujourd'hui dans les rues de Hong Kong, en dépit des dernières annonces de la présidente du gouvernement local.
Oui, il faut dire que Carrie Lam, c'est son nom, a annoncé hier la suspension du projet de loi visant à autoriser les extraditions de Hong Kong vers la Chine. La suspension, mais pas l'abrogation. C'est la raison pour laquelle des centaines de milliers de personnes sont encore attendues aujourd'hui dans les rues de l'ancienne colonie britannique, des manifestants qui souhaitent obtenir l'annulation pure et simple de ce projet de loi et entendent par ailleurs exprimer leur colère vis-à-vis des violences policières qui ont marqué leur dernier mouvement. Dominique André, vous êtes sur place. C'est dans quelques minutes maintenant que la manifestation va démarrer. Pouvez-vous nous dire si d'ores et déjà il y a du monde et quelle est l'atmosphère ?
Oui, beaucoup de monde, Serge. En fait, de nombreux manifestants sont encore en train de converger par le parc Victoria, d'où partira la manifestation dans une demi-heure environ. Il y a déjà beaucoup, beaucoup de monde et surtout des jeunes qui sont vêtus de noir et qui portent aussi des fleurs blanches en hommage à un manifestant qui est mort la nuit dernière. Il est tombé d'une passerelle de Hong Kong. Il était monté sur cette passerelle pour installer une banderole demandant la démission de Carrie Lam. Cette marche noire a donc trois objectifs. Un, la démission de la chef de l'exécutif local. Les manifestants vont demander aussi des excuses pour les violences commises par la police mercredi dernier. Et puis bien sûr, le retrait du texte favorisant les extraditions vers la Chine. La semaine dernière, il y avait 1 million de Hongkongais. Aujourd'hui, il y aura certainement plusieurs centaines de milliers de personnes, Serge.
Dominique André, donc, au milieu de la foule des manifestants, vous l'avez entendu autour d'elle, en direct de Hong Kong. Dans l'actualité à l'étranger, encore en bref, l'Arabie Saoudite met à son tour l'Iran en garde par rapport à l'attaque de pétroliers dans le détroit d'Hormuz. Le prince héritier Mohamed Ben Salman accuse à son tour Téhéran d'être responsable de ces attaques et ajoute dans une interview « Nous n'hésiterons pas à réagir à toute menace contre notre peuple ou nos intérêts vitaux ». Fin de citation.
À 9 mois maintenant des élections municipales, la campagne connaît ses premiers pics de tension. réactions, notamment au sein de La République En Marche.
Et ils sont quatre marcheurs ce matin. Anne Le Breton, Cédric Villani, Mounir Mahoujoubi, pardon, et Hugues Rançon a publié une tribune sur le site jdd.fr pour tenter de faire barrage à l'investiture de Benjamin Griveaux, donné lui favori. Quatre marcheurs unis pour appeler leur parti à une consultation citoyenne, Élodie Forêt.
Une fronde, disent-ils, au nom de la recomposition politique, d'un renouveau qui ne doit pas s'arrêter à la porte des mairies. Pour Cédric Villani, Mounir Mahoujoubi, Hugues Rançon et Anne Le Breton, le processus de désignation acté par la Commission nationale d'investiture et qui consiste à recevoir début juillet chacun des prétendants pour un entretien est loin d'être satisfaisant. Le seul moyen de créer le rassemblement, explique Mounir Mahoujoubi, c'est la consultation des adhérents, voire au-delà, et surtout de ne pas décider dans l'urgence. Une tribune qui risque de faire grincer des dents. Benjamin Griveaux lui a déjà exprimé son opposition à toute forme de primaire, des machines à perdre, selon l'ex-porte-parole du gouvernement, qui, si dans cette course à la mairie peut paraître seul contre tous, compte pourtant d'importants soutiens, les ministres Marlène Schiappa ou Julien de Normandie. L'appui tacite aussi, dit-on, du président, qui jusque-là n'aurait pas décroché son téléphone pour mettre fin à cette cacophonie parisienne.
Et Élodie Forêt, des municipales, il en sera également question dans quelques minutes avec votre invité Éric Delvaux, le député du Rassemblement National, Sébastien Chenu.
Autre chose avec la mort hier en Italie du réalisateur, scénariste et producteur Franco Zeffirelli.
Cet élève de Visconti et ami de Maria Callas, celui qui a réuni à l'écran Elizabeth Taylor et Richard Burton dans La Mégère apprivoisée de Shakespeare, s'est éteint à l'âge de 96 ans. Retour sur son parcours et les réactions suscitées par sa disparition en Italie avec Marie Duhamel.
Le monde de la culture endeuillé après la mort de Franco Zeffirelli. L'Italie pleure le maestro florentin, télévision, radio au diapason. Le président de la République, Sergio Mattarella, salue l'incroyable talent, la profonde sensibilité esthétique, l'esprit brillant et enthousiasmant de l'artiste aux 70 ans de carrière. Celui que la Scala de Milan qualifie de maître grandiose, il y réalisa 21 productions de 20 titres. La plus célèbre, son Aïda de Verdi, reprise depuis 1963. Mais sa dernière œuvre sera la Traviata. Elle sera interprétée la semaine prochaine à Vérone. Voilà le grand don qu'il nous fait. Nous nous souviendrons de lui avec ses mots qui sont les siens. Un créateur de rêves, affirme Cécile Gazdia du Festival Lyrique. Et pour une fois en Italie, la classe politique est unanime. Le président du Conseil exprime son émotion après la disparition de l'ambassadeur italien du cinéma, de l'art et de la beauté.
Ambasciatore italiano del cinema, dell'arte e della bellezza.
Car Franco Zeffirelli, c'est aussi une vingtaine de films dont son adaptation de Roméo et Juliette qui lui valut d'être nommé aux Oscars et d'être le premier Italien à être fait sœur par la reine d'Angleterre. L'Italie lui rendra un dernier hommage ce lundi à Florence, sa ville natale. La dépouille de l'artiste sera exposée au public avant une messe de funérailles. Rome, Marie Duhamel, France Inter.
Une mobilisation une nouvelle fois en baisse pour le 31e samedi des Gilets jaunes. Le ministère de l'Intérieur estime à 7000 le nombre de manifestants à travers toute la France. Les organisateurs du mouvement parlent, eux, de 20 000. Un 31e acte marqué par des heurts à Nîmes, Toulouse ou bien encore Paris. Allez, pour refermer ce journal, un hommage au papa. Vous l'avez entendu dans les titres, c'est aujourd'hui la fête des pères. Jour où les cadeaux offerts au papa ne sont pas toujours des plus originaux et des plus subtils. Mais qu'importe, tant que le cœur qui parle, c'est le cœur qui parle. Comme par exemple dans cette école Saint-Joseph de Bourgoin-Jallieu où s'est rendu Damien Triomphe.
Les CE1 de Saint-Joseph, sur une idée de la maîtresse, ont fabriqué pour leur papa un bouchon. Explication.
En fait, quand on ouvre les bouteilles, le bouchon il est un peu abîmé, donc lui il s'abîme pas.
Mais il faut que ton papa il boive du vin.
Ben il en boit assez beaucoup avec ma maman.
Le bouchon est décoré avec un cœur dessus.
Et aussi on a fait une carte de bonne fête papa et dedans on a mis un poème.
Le titre c'est l'alphabet des papas.
A comme amour, B comme bisou, C
dans la classe au-dessous, ce sont les CP.
La maîtresse elle nous a pris en photo, on a fait un cadre.
Tout ça ne se fait plus dans toutes les écoles, dans l'une ou l'autre classe en tout cas, c'est du temps qui est pris sur les heures de travail.
C'est le bricolage le plus important de l'année.
Céline, la maîtresse des CE1.
Ça rentre pas dans le cadre scolaire, en fait. Ils ont tous envie de faire plaisir à leurs parents. Tous. Et quand il y a des parents séparés, ils s'arrangent toujours pour... J'ai jamais eu de soucis. Donc je continuerai.
Et Clarisse confirme.
En fait, on a fait des cadeaux juste pour le plaisir de nos parents. Comme c'est la fête des pères, c'est pas pour le plaisir de notre plaisir, mais le plaisir de nos parents.
Oh, c'est gentil.
Ah, le plaisir d'offrir. Après cette petite illustration du bricolage de l'année, pour reprendre les propos de cette enseignante, place au papa de la matinale du week-end, Éric Delvaux, et bonne fête.
Avec un alphabet en coquillette, B comme bisou, j'ai noté C comme câlin, je prends. C'était le journal de Serge Martin.